Bonsoir. Je vous invite à ouvrir avec moi dans vos Bibles, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 2 et au verset 1. Il est écrit que Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Au verset 19, il est dit « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. J'espère que cette lecture n'a pas été trop longue pour vous. On a peut-être lu 21 versets, presque le chapitre 2 tout entier, hormis 2 versets. Et je crois que c'était important. C'était important pour nous ce soir de lire ce chapitre entier et de voir 3 choses. On va relever 3 choses. Lorsque j'ai préparé ces moments dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, j'ai passé du temps devant le Seigneur et j'ai vraiment eu à cœur de prendre ce texte et 3 choses m'ont sauté aux yeux, 3 choses sont venues dans mon cœur. Nous allons les voir ensemble et puissions-nous être des auditeurs sérieux qui mettent en pratique et qui s'appuient en tout cas, qui croient la parole, le message de Dieu. On va quand même d'abord incliner à nouveau nos fronts pour demander au Seigneur toute sa grâce sur ces moments. Éternel, tu es devant nous comme nous sommes devant toi et tu veux parler à nos cœurs. Tu ne veux pas parler à notre cerveau particulièrement, mais surtout à notre cœur. Bien sûr, tu nous aideras à comprendre les choses qui vont être dites. Oui, Seigneur, aide-moi moi-même à transmettre ce que tu as mis sur mon cœur. Ces vérités qui sont là et qui sont utiles pour notre croissance, pour notre salut surtout et aussi. Veuille bien te manifester aussi par ton esprit, en touchant nos cœurs, là où personne, par aucun discours et avec aucune intelligence, ne pourrait toucher les cœurs. Oui, Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui était dans la souffrance, dans l'abattement, dans le doute, Seigneur, dans l'angoisse, peu importe, tu viens trouver son cœur, tu viens trouver son âme et tu rentres dans son cœur. Tu le touches, tu lui parles, Seigneur, et tu le sauves en lui annonçant, Seigneur, toi-même, par ton esprit, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons ouvert ton saint livre. Je crois que la Bible n'est pas un simple livre, mais qu'elle est ta parole, la parole de Dieu. Et oui, Seigneur, qu'elle puisse être vivante, comme tu l'as dit, en nous. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit, trois choses m'ont sauté aux yeux. La première, c'est que Dieu est grand et capable de prendre soin de nous et de nous protéger. La première chose que je lis dans le texte, c'est que Dieu a pris soin de Joseph, de Marie et de Jésus, de l'enfant Jésus. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il nous est dit que Dieu a envoyé un ange pour parler. Un ange pour parler. Un ange pour parler d'abord à Joseph, pour lui dire, voilà, il y a Hérode, le roi, qui veut s'en prendre à l'enfant. Va en Égypte, fuis en Égypte et reste-y. Lorsqu'Hérode est mort, après sa mort, l'ange réapparaît. Il réapparaît à Joseph, le père adoptif de Jésus, puisqu'on sait que Jésus n'est pas né de Joseph directement, mais par le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Et l'ange revient et dit, voilà, ceux qui en voulaient à ton fils sont morts, aux petits enfants en tout cas sont morts. Tu peux retourner à Israël. Mais sur le chemin, l'ange réapparaît encore une troisième fois et lui dit, non, ne va pas à Jérusalem, mais va plutôt en Galilée, à Nazareth. À plusieurs reprises, on voit que Dieu a pris soin du petit enfant, de Jésus. Il a pris soin de Joseph, de Marie. Et lorsque Hérode a appris qu'il s'était fait jouer par les mages, on l'a lu, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis en colère. Et il a dit que dans la ville de Bethléem, d'après ce qui était écrit, on envoie des soldats et qu'il tue tous les enfants qui avaient 2 ans et en dessous. Et Dieu a pris soin du petit enfant. Hérode était un homme horrible. On a appris par les livres d'histoire qu'avant ces moments-là, il avait déjà fait tuer 45 sacrificateurs, en tout cas personnes au service du Sanhédrin. 45 hommes de Dieu, hommes au service de Dieu. Il les avait fait tuer. Lui-même, il a tué sa seconde femme. Il l'a fait tuer. Il a fait tuer aussi ses 2 fils sur des coups de colère. Il était violent, il était dur. Et Dieu savait, il a pris soin du petit enfant. Il a pris soin de Jésus. Et je crois, je suis profondément convaincu dans mon cœur que si Dieu a pu prendre soin de Jésus, si Dieu a pu prendre soin de ce foyer, il pourra aussi prendre soin de vous. Il peut prendre soin de moi. Il pourra prendre soin de votre foyer. Il peut prendre soin de votre famille. Il peut prendre soin de votre conjoint, de vos enfants. Il peut prendre soin. Il peut vous protéger. Il peut le faire. Et si quelqu'un était dans l'angoisse, avait peur de quelque chose, qu'il puisse trouver auprès de Dieu, qu'il s'approche de Dieu, de Jésus pour trouver la paix. Car Dieu est un Dieu qui protège. David disait lui-même dans le psaume 31 au verset 5, « Tu es mon protecteur, mon rocher protecteur » au verset 3. Il appelait Dieu aussi l'Éternel « mon berger ». Et il se voyait, il se comparait lui-même à une brebis. Vous savez que David était un roi, mais avant, il était berger. Et il connaissait très bien cette image du berger qui prend soin des brebis, puisqu'il nous raconte, et il dit lui-même, que lorsqu'il gardait les troupeaux qu'on lui avait confiés, lorsqu'il y avait un lion qui venait, il sautait au lion, il jetait des pierres, il sautait sur le lion, il lui arrachait la brebis de la gueule et il le déchirait. Il racontait aussi que lorsqu'un ours venait, il faisait pareil, il lui courait après, il lui attrapait la gueule, il arrachait la brebis, et lui-même il le frappait à coups de poing pour le tuer. Ça, c'était du berger. Il ne laissait pas l'ennemi, la brebis à son ennemi. Ça, c'est du bon berger qui prend soin de la brebis. David était un berger. Il compare Dieu à son berger. Dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus va plus loin dire « Je suis le bon berger ». Jésus veut être celui qui nous protège dans notre vie, qui nous garde. Oui, Dieu est capable de nous garder, de nous protéger. C'est la première chose que je vois. Protéger de quoi? Protéger de la famine. Est-ce que Dieu peut prendre soin dans ces temps de crise des hommes? Oui, moi je crois. Dieu peut nous donner un travail. Dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'à un moment, des gens suivaient Jésus. Et ils sont arrivés dans un lieu désert, il n'y avait pas de quoi acheter à manger, il n'y avait même pas de nourriture, rien du tout. Et les disciples viennent vers Jésus et disent, mais ah là là, il y a plusieurs milliers de personnes et on n'a pas à manger. Jésus leur dit, voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Je crois qu'on lui a dit, voilà, il y a juste un petit garçon, un petit enfant, qui a quelques pains, quelques poissons. Il lui amène. Jésus rend grâce et dit à ses disciples, distribuez, distribuez. Et il distribue à des milliers de personnes. Dieu multiplie les pains. Dieu multiplie les poissons au point que tout le monde a de quoi manger. Et même, il en reste suffisamment assez. Une corbeille par disciple. Puisqu'on arrive avec les restes, les petits bouts qui restaient, à remplir 12 corbeilles. La première fois, 12 corbeilles. Une pour chaque disciple. Gloire à Dieu. La veuve, un jour, une veuve était là. Elle n'avait plus d'argent, plus rien. Elle allait chercher du bois pour faire un feu, un gâteau, et après elle allait mourir. Elle avait un enfant. Elle voulait faire un gâteau pour son fils, pour elle. Elle allait le manger et elle allait mourir. Et un disciple, un prophète passe par là, et puis il lui dit, non, mais d'abord, fais-moi un gâteau à moi. Et après tu verras. Tu verras. Elle lui fait un gâteau, elle obéit, et juste après, il se passe un miracle. Imaginez-vous, chez vous, vous rentriez, vous avez la bouteille d'huile, vous versez, elle ne s'arrête jamais. De l'huile qui coule tout le temps. Ça c'est bien ça, non? Dieu pourvoit. C'était un temps de famine, on n'avait plus d'huile, plus rien. Et elle coule, et l'huile elle ne s'arrête plus. La farine dans le pot, elle ne manque pas. Vous ouvrez votre pot à farine, et puis vous coulez, ça coule tout le temps. Je ne sais pas, ça devait faire bizarre. Et ça a duré, tant que la famine était dans le pays. Et le jour où la famine s'est arrêtée, l'huile, la farine, a recommencé à s'arrêter et elle a pu à nouveau en racheter. Gloire à Dieu, non? Une autre personne, pareil, veuve, avait plus d'argent, plus rien. Elle avait même des créances que son mari qui était mort lui avait laissées, des dettes. Et puis alors le prophète lui dit, va chercher, va demander dans la ville tout plein de vases vides. Il fallait qu'ils soient vides, tu prends tout ce que tu peux ramener comme vase vide avec ton fils. Alors ils s'empressent, ils vont ramener tout ça, ils ramènent les vases à la maison. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec le peu qui lui restait, elle a versé dans les vases vides. Nous, on dit à quoi ça sert de transvaser d'un vase à un autre. Mais Dieu a fait encore là un miracle. Et de la même manière, l'huile a été en abondance. Et tant qu'elle versait, ça remplissait. Jusqu'à ce que tous les vases qu'elle avait amenés soient remplis. Elle a pu les vendre et avoir de l'argent pour pouvoir payer ses dettes et subvenir à ses besoins. Gloire à Dieu. De toutes sortes de manières, Dieu pourvoit. Et nous avons cette assurance que Dieu va nous protéger. Si nous lui confions notre vie, si nous acceptons sa parole et nous croyons dans sa parole, dans toute sa parole, pas qu'un peu, pas qu'une partie, si nous croyons dans la Bible, Dieu va pourvoir à nos besoins. Je me souviendrai toujours d'une époque dans ma vie où j'étais là, j'avais plus de salaire. Avec Stéphanie, ma femme, j'étais jeune marié et j'avais plus de salaire, plus rien, plus payé. J'étais au service de l'église et ils ne me payaient pas, ils ne pouvaient pas me payer. J'avais rien du tout. Et pourtant, j'avais bien sûr un loyer de 680 euros, des charges, etc., l'électricité, toutes sortes de choses. Et un jour, ma femme, je lui dis, est-ce qu'on a donné l'offrande? Puisqu'on rend à Dieu ce qu'il nous a donné, on lui offre des choses à Dieu, on lui rend un petit peu, avec notre offrande, à notre manière, ce qu'on peut, et bien ce qu'il nous donne, puisqu'il pourvoit, on le remercie. Et je lui dis, est-ce qu'on a donné l'offrande ce mois-ci? Elle me dit, mais Jérémy, on n'a rien reçu, avec quoi je donnerais? Qu'est-ce que je pourrais donner? Je dis, mais attends, il faut bien qu'on donne. Elle dit, mais Jérémy, même la dîme, c'est 10% de ce qu'on gagne, mais la dîme de zéro, c'est zéro. J'ai dit, oui, mais l'offrande. Elle m'a dit, mais non. J'ai dit, mais comment on fait? Il faut bien donner l'offrande au Seigneur quand même. Et puis elle me dit, mais Jérémy, on n'a pas assez de quoi payer ce mois-ci déjà. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Et je lui dis, écoute, dimanche, on donnera tant. Je dis, on donnera. Est-ce que le Seigneur, il ne pourvoit pas quand même? Et puis elle me dit, ben si, si, je sais tout ça. Vous savez, Stéphanie, elle est comptable de métier. Elle est comptable. Et un comptable, zéro, c'est zéro. Vous voyez? Ça ne fait pas 2, 10, 20. Ouais, c'est zéro. Et elle savait très bien ce que ça engageait, ce genre de choses. Et puis, alors le dimanche, on rentre de la réunion le midi. Et puis je lui dis, alors, t'as donné la dîme? Enfin, t'as donné l'offrande? Elle me dit, oui, oui, oui. Je fais, ben tu vois, c'est bien, voilà, je suis sûr que le Seigneur pourvoira. Elle me dit, ah oui, je sais que le Seigneur a toujours pourvu, mais là, je ne sais vraiment pas comment il va faire. Hein. Elle était convaincue, vous voyez. Et moi, j'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, on rentre. Et on avait invité mon père au repas, le midi, et puis on commence à manger. Puis mon père, il me dit, Jérémy, on m'a donné ça pour toi. Et c'était de l'argent bien plus que l'offrande qu'on avait donnée. Et de l'argent suffisamment, en assez grand nombre, pour qu'on puisse payer toutes nos factures et finir le mois. Parce que Dieu est fidèle. Dieu fidèle est bon. Il ne permettra pas qu'on soit dans la famine. Il y a des promesses qui disent que le juste, c'est-à-dire celui qui est juste devant Dieu, et qui a été justifié bien sûr avant, mais qui marche aussi dans la piété, eh bien, ne mendiera jamais son pain. Gloire à Dieu. C'est une promesse que l'on peut s'approprier. Des ennemis. Il nous protégera toujours des ennemis. Jésus a été protégé de son ennemi. Et je me souviens un jour d'une femme qui était en temps de guerre. Elle voulait aller à La Réunion. Elle voulait aller à La Réunion et c'était la guerre et toutes les rues étaient barricadées le soir. Il y avait des barrages, etc. Et si on sortait, il fallait vraiment une bonne raison. Et en plus, il y avait vraiment la persécution pour la foi. Il ne fallait surtout pas dire qu'on était chrétien. Et alors elle sort et elle se dit, bon, j'espère tomber sur personne. Et voilà que ça ne manque pas. Elle tombe sur un barrage militaire et on lui pose la question, « Madame, où allez-vous ? » Elle réfléchit un instant et dit, « j'ai mon frère qui est mort et je vais pour lire son testament. » « Ah, madame, passez, passez. Bon courage, mais on vous souhaite d'avoir de bonnes choses. » Elle dit, « Vous inquiétez pas, ça marche, merci. » Et puis elle passe. Et au moment du retour, elle chantait toute joyeuse d'avoir eu la réunion. Et puis elle repasse par le barrage. Elle se dit, « Ouh, j'espère que... » Et puis elle s'approche. « Alors, madame, alors, cette lecture, elle a été bonne ? Bonne nouvelle ? Absolument merveilleuse. Il m'a tout légué, il m'a tout donné. Amen. » Oh, amen. Et le gars, il comprend pas trop. Et puis, il la laisse quand même passer. Il dit, « Ah ben, c'est super, on est content pour vous. » Et oui, parce que Jésus, il a laissé un testament. L'Ancien, le Nouveau Testament. Et quand on le lit, il nous est dit qu'il nous a tout donné. Tout est à nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Dieu nous protégera de nos ennemis, de l'injustice. Pierre est libéré de prison. Il est mis en prison pour sa foi. Injustice. Dieu envoie un ange pour ouvrir les portes. Il le réveille de nuit. Il est tranquille, il dort. Parce que Jésus avait promis qu'il mourrait vieux. Et alors il est là en train de dormir. Et puis il y a l'ange qui le tape un peu sur le côté, qui le réveille. Ah, il se réveille. Et puis il dit, vas-y, lève-toi, remets ta ceinture et puis sors. Et lui, il ne réalise pas, il est un peu comme somnambule. Et puis d'un coup, il se retrouve dehors. L'ange l'a conduit dehors, il avait ouvert les portes, fait tomber les fers, il était libre. Parce que Dieu nous protège aussi de l'injustice de la mort. Lazare était mort et Dieu l'a ressuscité. Et il y a encore d'autres résurrections dans la parole de Dieu. Et il dit aussi qu'il veut nous protéger de la mort éternelle, de l'enfer. Et je peux dire moi aussi que Dieu m'a protégé de la mort. Il y a eu une explosion, j'ai brûlé, mais Dieu m'a gardé. Et je suis au milieu de vous pour en témoigner encore ce soir. La maladie, protège de la maladie. La femme a la perte de sang. Une femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ça ne s'arrêtait pas continuellement. Elle était sûrement affaiblie à cause de cette perte de sang. Et tous les symptômes qui suivent de la perte de sang, et au-delà de cette maladie et des impacts physiques, il y avait un impact moral, parce que lorsqu'une femme était atteinte de perte de sang, elle était exclue du peuple, elle était déclarée impure, et personne ne pouvait la toucher, elle était comme souillée. Et Jésus passe par là, elle touche le bord de son vêtement, c'est-à-dire les franges de son vêtement, là où il y avait la couleur bleue, la couleur blanche, couleur bleue qui parle de bénédiction, la couleur blanche qui parle de sainteté. Elle touche la frange du bord du vêtement de Jésus et elle se retrouve purifiée de son mal, guérie, gloire à Dieu. La fièvre, la belle-mère de Pierre qui est guérie de sa fièvre, et les lépreux, toutes sortes de lépreux qui s'approchent de Jésus qui sont guéris. Les exemples sont multiples et on pourrait passer la soirée à relire, à reparler de ce que Jésus a fait dans la parole concernant la guérison. Moi-même, j'ai vécu la guérison de l'hépatite B, et bien d'autres choses. Merci Seigneur. J'ai les deux, je disais encore cet après-midi que j'ai les deux constats du médecin. La feuille qui dit que j'ai l'hépatite B et la feuille qui dit que je ne l'ai pas. Voilà. Une qui est avant, une qui est après. Les deux montrent eh bien, qu'il y a eu une intervention de Dieu parce que Dieu est encore un Dieu qui guérit aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu garde des catastrophes. J'ai moi-même vécu encore une fois, je peux vous parler de ce que j'ai vécu aussi. L'inondation, c'était à Draguignan, il y a de ça 2 ans. Il y a l'eau est venue, les voitures sont envolées. Non, on commençait à flotter, hein, les voitures qui volent, c'est pas trop encore maintenant. Mais elles sont mises à flotter, la mienne s'est mise à flotter, partie, mais Dieu m'a gardé. J'ai des collègues de travail qui sont morts, parce qu'ils sont rentrés du travail, malgré l'inondation, l'eau les a emportés et se sont retrouvés noyés. Je connais des personnes à qui j'ai parlé du Seigneur, qui n'ont pas accepté, qui quelques temps après se sont retrouvés morts dans cette inondation. Et nous, Dieu nous a gardés. Et même, Dieu a gardé son église à Draguignan, puisque c'était une rue en pente. Normalement, l'église devait être inondée, mais quelqu'un a fermé les portes de la rue, juste du porche derrière laquelle était l'église. Ça a été fermé, du coup l'eau a passé devant, et elle n'est pas allée derrière, elle n'a pas inondé l'église. On a pu utiliser l'église pour venir en secours à la population. Et je pense, dans la parole de Dieu, à cette tempête que Paul a traversée. Le bateau a été déchiré, le bateau a été complètement détruit, mais lui, il a été gardé parce que Dieu lui avait dit cette parole. Pour toi, il ne t'arrivera rien. Et si les autres, ceux du bateau, les 200 personnes qui étaient là, restent dans le bateau avec toi, il ne leur arrivera rien. Et tous arrivent sur une île. À la fin, ils doivent nager et s'accrocher au dernier bout de bois qui reste. Mais tous arrivent, sains et saufs. Merci Seigneur. Dieu protège des catastrophes. Ça, c'était la première chose que j'ai remarquée. Dieu protège. Dieu est grand, Dieu est puissant pour nous garder. Et la deuxième chose que je vois, c'est que sa parole est certaine. La parole de Dieu s'accomplit toujours. On voit au verset 6 cette prophétie. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » C'est plus avant dans la parole de Dieu, 700 ans avant que Jésus n'arrive, cette parole a été prononcée et Jésus a été annoncé comme venant sur la parole, sur la terre, sauver les hommes. Oui, 700 ans avant la venue de Jésus, déjà, cette prophétie particulièrement a été écrite et dite. Et à la perfection, la prophétie s'est accomplie. Et on pourrait prendre toutes sortes d'autres textes qui annonçaient Jésus. Dès la Genèse, c'est-à-dire 1900 ans avant Jésus-Christ, une prophétie concernant Jésus a été dite. Et ta postérité, en parlant de la femme, écrasera la tête du serpent. C'est Jésus mourant sur le bois du calvaire. Oui, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et je vous fais une lecture, vous pouvez le prendre avec moi si vous le voulez. Dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 1, il était dit cela, et c'est il y a presque 2000 ans que ça a été écrit, par l'apôtre Paul, « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on n'est pas dans des temps difficiles? Vous voyez, moi j'écoutais un petit peu les programmes des nouveaux présidents, enfin ceux qui voudraient être présidents, et on entend tous, il y a une solution. Tous, ils ont une solution pour sortir de la crise. Et c'est la faute à ceux qui sont en place actuellement. Mais tous, c'est le même discours. Et eux, ils ont la solution, alors ils proposent ceci, cela, comme si, s'il y avait vraiment des solutions, elles n'auraient pas été prises déjà. Vous voyez? Mais chacun va tirer la corde de son côté pour être élu. Et je ne veux pas rentrer dans un débat politique, mais simplement vous dire que la parole de Dieu, elle annonçait déjà ces choses. Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Vous avez peut-être une traduction des mots qui sont un peu différents. Insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la force. Ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là, pouvait dire Paul. Est-ce que les gens ne sont pas égoïstes de plus en plus? Chacun devant son PC ou devant son Mac, chacun devant son ordinateur personnel, et puis à penser à soi, à vivre pour soi, à ne pas se tourner vers les autres, à ignorer la misère de notre propre voisin de palier, de notre propre voisin de quartier, ou de la personne qui va être sur notre chemin. Voilà. Je rappelais encore cet après-midi qu'à la pastorale, lundi midi qu'on a passé, on était au Buffalo, vous savez. Avec les pasteurs, on essaie de profiter du temps de midi pour manger ensemble. Et il y avait une serveuse. Il y avait une serveuse qui était là, et j'étais en train de parler, j'étais assis en face d'un collègue, un autre pasteur. Et ce pasteur, il dit à cette serveuse, il dit, vous savez que votre prénom, quelqu'un d'autre l'a porté bien avant vous. C'est une femme, et elle a enfoncé un pieu dans la tête de quelqu'un. Elle dit, oui, je sais, c'est dans la Bible. Il était tout surpris. C'est dans la Bible. Il dit oui. Elle dit oui, c'est dans la tête d'un roi ou d'un chef militaire. Je m'en souviens plus. Il dit oui, c'est ça. Elle dit c'est mes parents qui me l'ont expliqué. C'est mes parents. Il dit eh bien c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Vous savez qui on est? Elle dit oui, je sais que c'est des pasteurs qui ont réservé. Ah d'accord, ok. Eh bien écoutez, on priera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ça s'est arrêté là. On mange tout ça. À la fin, on nous apporte chacun notre petit ticket de caisse. Et puis lui, il reçoit un ticket de caisse, seulement il avait pris un repas différent de tous les autres pasteurs. Il aime bien marquer la différence, lui. Et alors du coup, le ticket ne correspondait pas. Alors il dit, non, moi c'est pas ce prix-là tout ça. Et je me suis retrouvé avec son ticket. Vous allez comprendre. Et juste après, à la fin du repas, tout le monde, tous les pasteurs partent, et il y a un pasteur qui n'a pas payé son repas. C'est pas bien pour un pasteur, hein. Il n'a pas fait exprès, il est parti, il a oublié de payer son repas. Et le dernier pasteur restant voit la serveuse arriver et lui dire, il y en a un d'entre vous qui n'a pas payé, qui est parti sans payer. Il dit, vous inquiétez pas, je vais payer à sa place et je m'arrangerai avec lui plus tard. Et il fait l'avance et il se tourne vers la jeune fille, qui était la même serveuse, et lui dit, Dieu vous cherche. Et là, elle se met à s'effondrer en larmes. Elle se met à pleurer. Et lui dit, je prierai pour vous, mais sachez que Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Et il nous raconte ça juste après. Nous, on était tous arrivés déjà à Toulouse-Ouest, à la salle, à l'église, retournés pour continuer les travaux. Et il nous raconte ça. Moi, j'ai de suite fait tilt. Et il m'avait semblé voir quelque chose sur le ticket de caisse. Je sors le ticket de caisse et je vois marqué en bas, merci, Yaël. Et je regarde Sébastien, le pasteur, le collègue, et je lui dis, tu vois, c'était pour toi, ça. Elle l'avait adressé à toi, c'était à toi le ticket. Et on a comparé nos tickets, il n'y avait que lui qui avait ça. Déjà, par la première parole, elle avait été touchée. Elle avait répondu merci. Mais il a fallu un deuxième pasteur qui allait la voir, qui lui a dit Dieu vous cherche. Et elle s'est mise à pleurer. On s'est engagé à retourner la voir pour lui parler, l'encourager. Mais Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les hommes. Et il ne veut pas qu'on soit égoïste chacun de son côté. Il veut nous utiliser à chacun. On ne sait pas comment il va faire, on ne se sent pas capable, ça c'est pas grave. Mais Dieu a une bonne nouvelle et il veut que tous les hommes l'entendent. Il veut sauver le monde. Et si quelqu'un ne connaissait pas le Seigneur ce soir, il veut vous bénir, il veut vous sauver et il veut vous garder, vous préserver de tout mal. Oui, ne soyons pas égoïstes. Ça c'est une des annonces, une des prophéties que Paul avait faites. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et si le monde est égoïste, ami de l'argent, fanfaron, etc., Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut et peut changer notre cœur. Le voulez-vous ? Le voulez-vous ? Dans Matthieu 5, 18, il est dit ceci, « en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La parole de Dieu ne passera pas tant que tout ne sera pas arrivé. Dans Apocalypse chapitre 21, il me semble, il est dit ceci, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez bien, il est dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. C'est vrai et c'est une parole, une promesse, un encouragement que Dieu va essuyer toutes larmes des yeux de ceux qui l'auront accepté. Que Dieu va essuyer va enlever toute mort, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cri ni de douleur, parce que Dieu va faire toute chose nouvelle. Ça c'est quelque chose de vrai, c'est une promesse. Dieu veut sauver les hommes, Dieu veut les bénir, il y a un paradis, il veut que tous les hommes aillent au paradis. Mais si vous lisez bien un petit peu avant, au chapitre 20 et au verset 12, il est dit, les hommes furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et si Dieu veut bénir, si Dieu veut essuyer toute larme pour l'éternité, si Dieu veut donner le paradis aux hommes, il dit aussi qu'il faut se préparer à la rencontre de Dieu parce qu'un jour aussi, il jugera les hommes selon leurs œuvres. Et c'est écrit dans Actes 17, chapitre 17, versets 30 et 31. Il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, c'est-à-dire à renoncer au péché, à demander pardon pour le péché, à changer de mentalité, arrêter de voir le péché comme quelque chose de pas grave, arrêter de voir le mensonge, arrêter de voir l'adultère, la tromperie, la fornication comme quelque chose de pas grave, parce que Dieu va juger ces œuvres-là. Et il va juger ceux qui les auront commises s'ils ne se repentent pas, s'ils ne demandent pas pardon et s'ils ne les rejettent pas. Il nous est dit parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi, une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Son nom, c'est Jésus. Amen. Jésus va juger. Aujourd'hui, il est le sauveur. Il veut être votre sauveur. Il veut vous pardonner. Mais un jour, la Bible dit, et sa parole, la Bible, c'est quelque chose de vrai, c'est la parole de Dieu et ça va s'accomplir. C'est qu'un jour, Dieu va juger les hommes s'ils ne se sont pas repentis avant, s'ils n'ont pas renoncé, compris que le péché, c'est grave dans la vie et qu'il faut le rejeter. Il faut y renoncer. Dieu veut nous protéger de l'enfer. Dieu a créé le paradis. C'est sa présence pour l'éternité. Un endroit où il n'y aura plus de deuil. Plus de deuil, plus de séparation. Plus rien, plus de larmes, plus de souffrance. Mais pour le diable et les démons aussi, il a fait l'enfer. Parce que le diable a commis le premier péché. Et les hommes, malheureusement, l'ont suivi. Et aujourd'hui, tous sont pécheurs. Moi le premier. Alors Dieu a voulu sauver les hommes et les protéger de l'enfer. Et la troisième chose, on en vient à la troisième chose que je remarque dans Matthieu chapitre 2, c'est que Jésus est vraiment venu sur la terre pour mourir sur la croix, pour nous sauver. Il aurait pu des dizaines, voire peut-être des centaines de fois mourir avant d'aller à la croix. Vous avez tous entendu parler de la croix de Jésus. De Jésus qui est mort sur une croix. Peut-être certains d'entre vous ont un médaillon en forme de croix. J'aimerais vous dire que ce médaillon ne peut rien faire pour vous. Mais Jésus, s'il est mort, il est ressuscité. Lui peut faire quelque chose pour vous. Ce soir, maintenant, si vous n'avez pas encore reçu le pardon de vos péchés. On l'a entendu, il y a un enfer. Il y aura un jugement pour toutes les œuvres mauvaises qu'on aura accomplies. Toutes les œuvres qui déplaisent et qui attristent le Seigneur. Qui font venir en lui une sainte colère. Et puisque Dieu aime les hommes, puisque Dieu veut sauver les hommes, il a donné son fils Jésus. Il est né. Il a été petit enfant. Il est venu comme une simple plante, sans attirer le regard. Jésus n'avait pas une aura qui brillait autour de lui. Il était comme nous. Il est venu en simple homme. Mais lui, il s'est gardé du péché, il s'est gardé pur. Parce qu'il avait un but dans sa tête. De sauver, me sauver, aller jusqu'à la croix. Si Jésus était gardé d'Hérode, de la main d'Hérode, si Jésus a été gardé de la main de son fils qui lui a fait tuer 3000 personnes, plus de 3000 personnes sous un coup de colère, si Dieu a préservé Jésus des pharisiens qui étaient jaloux parce que Jésus faisait des miracles, il bénissait, il protégeait, il gardait, il ressuscitait, il guérissait. Ils étaient jaloux parce que Jésus leur montrait qu'ils avaient des bonnes paroles, mais qu'au fond ils n'accomplissaient rien du tout, ils n'obéissaient pas à Dieu. Et ils faisaient tout ça pour leur propre gloire. Dieu l'a protégé à lui, de ces personnes-là, de ces pharisiens, de ces scribes, de ces religieux, parce qu'il voulait qu'il aille jusqu'à la croix pour payer à ta place, à ma place, et que nous soyons sauvés. Oui, le péché amène une condamnation. Si vous volez, il y a une peine pour le vol. Si vous ne faites pas attraper, ça n'empêche pas que vous méritez et que vous pouvez tomber sous une peine. Si vous faites un délit, il y a des peines prévues pour tel délit. Si vous faites un crime, il y a des peines pour tel crime. Et la parole de Dieu dit que pour le péché, la peine, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle, qui s'appelle l'enfer. Et ça, je ne le dis pas avec accusation, pour mettre un poids sur vos épaules, mais pour vous avertir, parce que Dieu vous aime et veut vous avertir, et il m'a dit de le faire. Il me l'a dit. Alors voilà, il y a un enfer, mais Dieu vous aime tellement, vous avez tellement de la valeur à ses yeux, qu'il a envoyé Jésus mourir à votre place, pour vous, sur le bois de la croix, portant vos péchés. Et quiconque croit en Jésus ne périt point, mais il obtient la vie éternelle, et le paradis, et le ciel, et la nouvelle terre qu'on a lue, et toutes les bénédictions de Dieu, et il échappera à la mort. Première chose, Dieu est grand pour nous protéger de tout mal sur cette terre. Deuxième chose, si Dieu a parlé, sachons que toute parole qu'il a dite va s'accomplir. C'est pourquoi il nous faut régler l'affaire du péché. Il nous faut nous garder éloignés du péché, même après avoir obtenu le pardon de nos péchés. Et si je recommets encore des erreurs, eh bien je redemande pardon. Est-ce que Dieu va dire « Ah non, non, c'est qu'une fois ?» Non, il ne se lasse pas de pardonner, il nous est dit dans Isaïe. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors voilà, acceptons tous cette bonne nouvelle, que Dieu est grand pour protéger, que sa parole s'accomplit. Et dans ces paroles, il y a des commandements, il y a des avertissements, mais il y a aussi des promesses. Et cette promesse, c'est que quiconque croit en lui sera protégé de l'enfer, gardé épargné de l'enfer. Voulez-vous cette protection ? Jésus est vraiment venu sur la terre pour nous sauver en allant à la croix. Le but de Jésus en venant sur la terre, puisqu'il s'est incarné en tant qu'homme, c'est de mourir pour nous sauver sur le bois de la croix. Et Dieu l'a ressuscité, il est vivant, et il accorde le pardon à tous ceux qui crient à lui, qui l'invoquent et qui lui demandent pardon pour leurs péchés, qu'il accepte comme sauveur, mais aussi comme maître dans leur vie. Ça, c'est important. On incline nos yeux et nos fronts. Seigneur, merci pour ta parole, comme on a chanté. Merci pour cette bonne nouvelle qui dit que tu aimes les hommes, que tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer, mais que tu veux nous sauver. Merci de m'avoir gardé, protégé à de nombreuses reprises. Merci encore ce soir de me donner l'opportunité de dire, avec mes faiblesses, mais avec assurance, que tu sauves, que tu bénis, que tu guéris et que tu protèges, Seigneur. Oui, ce soir, quelles que soient les personnes qui sont devant nous, ta parole nous dit que tu ne fais point de favoritisme, alors je te demande, Seigneur, de bénir encore les moments qui vont suivre, ce moment d'appel, et que ceux qui répondront à cet appel soient bénis, qu'ils puissent avoir l'assurance dans leur cœur, par la conviction de ton Saint-Esprit, qu'ils obtiennent de toi ce qu'ils sont venus chercher. Amen.